une nouvelle association à la Garenne, au Bois-Colombes, Hermont, là où vous êtes. Qui est-ce que vous allez choisir? Qui est-ce que vous allez demander pour faire équipe avec vous, pour lancer votre nouvelle association? Vous allez sûrement choisir des personnes de bonne réputation, peut-être des personnes bien connues dans la ville. Ah, si seulement c'était possible d'avoir l'adjoint du maire ou quelqu'un d'autre lié à la mairie dans votre association, ce serait pas mal. Ou quelqu'un avec un compte Instagram bien suivi. Comme ça, les nouvelles de votre nouvelle association va partir encore plus loin. Et pour lancer l'Église, pour bâtir le peuple de Dieu, que fait Dieu? Vers qui est-ce qu'il se tourne? Je vous invite à ouvrir une Bible à la page 21, à la page 21, donc c'est Genèse 29. Et je vais lire à partir du titre « Léa et Rachel ». Donc, c'est le verset 14b. Mais Genèse 29, à la page 21, à partir du verset 14b. Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'un autre homme reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé au bout, jusqu'au bout de mon contrat, et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Moi, cela ne se fait pas chez nous, de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Et Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. » Et il lui donna le nom de Simeon. Elle tomba encore enceinte et elle mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba enceinte encore et mit au monde un fils. Et elle dit, « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante Bilha et des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme sa servante Bilha, et Jacob eut des relations avec elle. Bilha tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilha, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse !» Oui, toutes les femmes me diront « heureuse !» Elle l'appela Aser. Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa femme Léa. Rachel dit à sa mère Léa, « Merci !» Rachel dit alors à Léa, « Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exorça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné six fils. » Elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exorça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Et elle l'appela Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Je vais prier avant de dire plus. Merci à notre Père Céleste parce que toute Écriture est inspirée de toi. Est utile pour nous rendre sages pour le salut, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et donc, merci de nous former, merci de nous équiper pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Quelle histoire sordide! C'est une histoire digne des meilleures ou des pires émissions télé-réalité. Nous allons voir que, de façon inattendue, Dieu bâtit son peuple. Et dans cela, chacun reçoit tellement plus qu'il mérite. C'est la grâce contre toute attente. De façon inattendue, Dieu bâtit son peuple et chacun reçoit tellement plus qu'il mérite. Premier titre, l'amour est dans le prêt. L'amour est dans le prêt. À moi passe depuis les retrouvailles heureuses entre Jacob et sa famille. Vous vous souvenez peut-être de la semaine dernière, Dieu avait gardé Jacob dans la traversée du désert, comme il avait promis. Dieu a gardé Jacob et Jacob est arrivé sain et sauf chez les siens. Et donc, il met la main à la pâte. Et un mois plus tard, son oncle, Laban, demande à Jacob quel sera son salaire. C'est une question un peu étrange, n'est-ce pas, entre membres de la même famille. Et puis aussi, normalement, c'est l'employeur qui propose le salaire. L'employé qui le suggère. Mais peut-être Laban a-t-il remarqué l'amitié grandissante entre Jacob et sa fille Rachel? Il a remarqué les regards volés, les mots doux, les gestes d'amour un peu cachés. Laban sait que Jacob n'aura pas les ressources pour payer la dot. Alors il donne à Jacob l'occasion de nommer son salaire. Et Jacob saisit l'occasion. Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban ne dit pas non, mais il ne dit pas oui non plus. C'est une réponse ambiguë, n'est-ce pas le verset 19? Je préfère te la donner à toi qu'un autre homme reste chez moi. Ce n'est pas marché conclu. Ce n'est pas oui. Une réponse un peu ambiguë. Réfléchis déjà à ce qu'il va faire. Mais Jacob n'a rien remarqué. Et en quelque sorte, il faut féliciter Jacob pour sa discipline, pour son industrie. Il travaille 7 ans. Mais il lui parut comme quelques jours parce qu'il aimait tellement Rachel. Et c'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Les 7 ans arrivent à leur fin. Jacob a honoré sa partie de l'accord. Il est pressé d'être marié à Rachel. Et donc, il demande à Laban d'honorer sa partie. Et disons en parenthèse que la Bible n'a rien contre l'amour romantique. La Bible n'a rien contre la passion des désirs sexuels. Au contraire, ce sont des cadeaux de Dieu, des cadeaux de Dieu qui trouvent leur place dans la relation fidèle qui est le mariage. Et donc, les faire-part sont envoyés, la salle de fête est réservée. Laban prépare la fête, il invite tous ses amis. Et à la fin de la première jour de festivité, Laban amène sa fille à Jacob. Le mariage est consommé. Et le lendemain, Jacob se réveille et il sursaut. De surprise. Voilà que c'était Léa. Le trompeur est trompé. Le trompeur se trouve trompé. Nous nous demandons comment est-ce que c'était possible. D'abord, il semble que les femmes étaient voilées. Quand Rebecca, la femme d'Isaac, rencontre Isaac pour la première fois, Elle est voilée. Ensuite, il faisait nuit, il faisait sombre, il n'y avait pas d'électricité pour éclairer. Est-ce que les délices gastronomiques de la fête avaient rendu Jacob moins attentif à ce qui se passait? Et notons aussi qu'il n'y a pas la famille de Jacob pour veiller sur ce qui se passe, pour protéger leur fils. Dans tous les cas, le trompeur est trompé. Et le lendemain, Laban s'explique, le verset 26, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. » Laban voulait être sûr de donner sa fille aînée, Léa, la sœur de faibles yeux, en mariage. Il voulait être sûr de donner Léa en mariage avant de donner Rachel, la fille cadette, la sœur qui était belle à tout point de vue. Et est-ce que vous voyez l'ironie dans cette histoire? L'ironie, Jacob qui a trompé son père afin d'avoir la bénédiction du fils aîné, il se trouve lui-même trompé afin de respecter la coutume de la fille aînée. Jacob qui a trompé son père afin d'avoir la bénédiction du fils aîné, se trouve trompé afin de respecter la coutume de la fille aînée. Et c'est un rappel, il me semble, que si nous sommes victimes du péché des autres, nous devons reconnaître aussi que nous sommes coupables. Si nous sommes assujettis du péché des autres, on n'est jamais innocent. Nous sommes aussi responsables de commettre le péché. Ce n'est pas pour minimiser, pour excuser le péché, ce n'est pas pour minimiser la souffrance. C'est moche de voir ce que Laban fait, comment il exploite Jacob, Léa et Rachel. Mais si nous remarquons les péchés des autres, faisons attention de ne pas être aveugle à notre propre péché. Jésus a pris l'image de celui qui avait... celui qui remarque la paille dans l'œil de son frère, alors qu'il avait lui-même une poutre dans son œil. Et si nous souffrons du péché des autres, nous devons être sûrs de confesser notre propre péché et de nous détourner de notre propre péché. Laban s'explique, il propose de donner Rachel à Jacob aussi pour le prix de 7 ans plus de travail. Jacob semble accepter la proposition. Est-ce qu'il reconnaît qu'il n'est pas innocent dans l'histoire? Il finit la semaine de noces avec Léa. Il se marie avec Rachel et il se lance sur 7 ans de plus de travail. Et la vie familiale de Jacob commence d'une façon on ne peut pas plus chaotique. Mais dans cela, de façon inattendue, Dieu bâtit son peuple. Dieu est en train d'accomplir sa promesse à Jacob, Isaac et Abraham de multiplier la descendance. De multiplier la descendance. Ajoutons aussi que la polygamie que nous voyons ici ne fait pas partie du plan de Dieu. Genèse 2, un seul homme uni avec une seule femme pour faire un seul chair. Si on voit des mariages polygames dans l'Ancien Testament, ce n'est jamais approuvé. Et au contraire, on voit comment ça sème la pagaille dans les relations familiales. Car la suite... C'est une histoire sordide, n'est-ce pas, digne des émissions de télé-réalité. Mais dans cela, de façon inattendue, Dieu est en train de bâtir son peuple. Et chacun reçoit tellement plus qu'il mérite. C'est la grâce contre toute attente. Et donc, deuxième titre, opération séduction, la descendance multipliée. Opération séduction. La descendance multipliée. L'Éternel voit que Léa n'est pas aimée et dans sa compassion, Dieu qui est la source de la vie donne des enfants à Léa. Et dans les prénoms des enfants de Léa, est-ce que vous voyez comment elle cherche désespérément l'amour de son mari. Premier fils, Ruben. L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Deuxième fils, Siméon. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Troisième fils, Lévi. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. Vous voyez comment elle cherche à gagner l'amour de son mari par ses enfants. Mais le quatrième fils, Judas, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. Intéressant. Est-ce qu'elle a compris qu'elle n'allait pas gagner l'amour de son mari en ayant des enfants? Et donc, elle décide plutôt de célébrer l'Éternel. Au lieu de chercher l'amour de son mari, elle reconnaît tout ce que Dieu fait pour elle. Et elle a raison de célébrer l'Éternel. Dieu lui a donné quatre fils. Et parmi ces quatre fils, des tribus d'Israël qui vont changer l'histoire. Il y a les tribus de Lévi, les prêtres, ceux qui étaient responsables pour gérer le tabernacle, donner l'occasion aux Israélites d'offrir des sacrifices afin d'être en règle avec Dieu. Et Judas, c'est la tribu qui régnera. Le roi David, il vient du tribu de Judas. Jésus-Christ, fils de Dieu, le Messie lui-même, il vient de Judas. Léa, la femme mal aimée, la femme de faibles yeux, la femme délaissée, elle se trouve élevée à une dignité contre toute attente. Notre société, comme il y a 4000 ans, élève le beau, la belle, celui qui est aimé, celui qui peut être publié sur Instagram. Mais Dieu donne à Léa, la mal-aimée, la délaissée, une place précieuse dans son peuple. La belle Rachel, par contre, celle qui est aimée de Jacob, n'arrive pas à avoir des enfants. Et elle est submergée par la jalousie. « Donne-moi des enfants ou je meurs !» elle crie à son mari. Et si nous avons déjà reconnu que la Bible reconnaît l'amour romantique, les désirs sexuels, la Bible reconnaît aussi le bon désir d'avoir des enfants et la douleur de ne pas y arriver. Proverbe 30, verset 15. Proverbe 30, verset 15. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. La tristesse de ne pas pouvoir avoir des enfants est réelle. Je vois ça chez quelques amis à moi. Et la tension que ça peut mettre au sein du couple est importante aussi. Mais Jacob ne suit pas l'exemple de son père qui a prié pour sa femme. Tous les patriarches ont eu des difficultés à avoir des enfants. Mais Isaac, il a prié pour sa femme, Rebecca. Jacob, il réagit avec colère. « C'est pas ma faute, hein? » Et Rachel court après de mauvaises solutions. D'abord, elle propose d'avoir des enfants par sa servante, Bilha. « quand Bila tombe enceinte, elle considère que Dieu lui a rendu justice. Mais ça ne fait qu'augmenter les conflits entre elle et sa sœur. Car Léa décide de suivre son exemple aussi. Ensuite, Rachel court après les mandragores. Les mandragores, c'est une plante qu'on croyait avoir des pouvoirs de favoriser la fécondité. Il faut attendre jusqu'au verset 22 pour un indice explicite que Rachel prie et que Dieu exauce ses prières malgré sa jalousie, malgré sa colère, malgré le fait d'avoir cherché des mauvaises solutions. Dieu exauce ses prières et Dieu lui donne un fils. Mais même là, on a l'impression qu'elle elle a du mal à être reconnaissante et être satisfaite. Elle nomme son fils Joseph en disant que l'Éternel ajoute un autre fils. Dieu lui donne tellement plus qu'elle mérite, malgré sa jalousie, malgré sa rivalité avec sa sœur, malgré le fait qu'elle court après de mauvaises solutions. Dieu exauce ses prières et Dieu lui donne Joseph. Joseph qui lui aussi aura une place importante au sein de la famille. C'est lui qui va devenir le premier ministre d'Égypte au travers de lui. L'Égypte et ses nations voisinantes seront protégées, seront sauvées pendant une sécheresse. Et la famille d'Abraham sera protégée, sauvée. Grâce à Joseph. Mais dans toute l'histoire, Rachel et Léa veulent ce que l'autre sœur possède. Léa veut être aimée comme sa sœur Rachel. Rachel veut avoir des enfants comme sa sœur Léa. Chacune fait tout ce qu'elle peut pour avoir ce que l'autre possède. Et en fin d'histoire, ni l'une ni l'autre n'est heureuse. Car les enfants ou une relation amoureuse ne peut jamais les satisfaire. Et même quel danger de demander à une relation amoureuse ou à un enfant de nous satisfaire. La relation de l'enfant sera sûrement écrasée par de telles attentes. Mais Dieu seul est capable de nous satisfaire. Lui seul peut supporter le poids de nous satisfaire. Mais avant tout, dans cette histoire, de façon inattendue, Dieu est en train de bâtir son peuple. Il est en train d'accomplir ses promesses à Jacob, Isaac et Abraham, de donner une descendance nombreuse. Bien que la situation soit sordide, malgré le péché, même au travers du péché, Dieu est en train de multiplier la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, comme il avait promis. Dieu est en train de bâtir son peuple. Et il fait cela au travers de personnes surprenantes. Léa, mal-aimée. Rachel, jalouse. Jacob, le trompeur, trompé. De façon inattendue, Dieu bâtit son peuple et chacun reçoit tellement plus qu'il mérite. C'est la grâce contre toute attente. Et aujourd'hui encore, Dieu est en train de multiplier le peuple d'Abraham. Ce n'est pas par la naissance physique, mais par la nouvelle naissance. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes le chrétien et enfant d'Abraham. Et Dieu appelle, non pas selon les critères de nos mérites, ou notre réputation, ou notre beauté physique, même la justice de notre vie, mais Dieu appelle selon sa bonne volonté, selon son amour immérité. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens, chapitre 1, c'est à la page 744. Et à Corinthe, Dieu était en train de bâtir son peuple. À 1 Corinthiens 1, à la page 744. Et à Corinthe, Dieu est en train de bâtir son peuple, bâtir son église. Il fait ça au travers de personnes pas très impressionnantes, voire des personnes avec des passés compliqués. Et je vais lire à partir du verset 26 du chapitre 1. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. À l'église de Corinthe, il n'y avait pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Il y avait des gens avec des passés compliqués. Mais Dieu bâtit son peuple. C'était le cas à Corinthe. Et j'ose dire que c'est le cas ici. Afin que personne ne puisse faire le fier, afin que personne ne puisse se vanter de ses mérites, de comment il est digne, comment sa propre justice lui a donné le droit de faire partie du peuple de Dieu. C'est la grâce, c'est grâce à Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Et reconnaissons que si nous faisons partie du peuple de Dieu, si nous avons fait confiance en Jésus, Dieu nous donne aussi tellement plus qu'on mérite. Dieu nous donne le salut, le pardon. Dieu nous adopte comme ses enfants. Dieu nous donne la vie éternelle avec lui. Au début de la lettre à 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 4, Paul écrit, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et reconnaissant que Dieu nous donne tellement plus qu'on mérite. Et au lieu de désirer plus en pensant que ça va nous satisfaire, cherchons notre satisfaction en Dieu lui-même. Voyons combien Dieu nous a déjà donné en nous donnant la possibilité de faire partie de son peuple. Et même au travers de personnes comme nous, il nous fait ses ambassadeurs, ceux qu'ils utilisent pour que d'autres personnes puissent le connaître et faire partie de son peuple. De façon inattendue, Dieu bâtit son peuple et chacun reçoit tellement plus qu'il mérite. Je vais prier, prions ensemble. Notre Père Céleste, nous sommes surpris de voir de telles histoires dans la Bible, de voir de telles histoires dans la naissance de ton peuple. Mais nous voyons aussi que nous ne sommes pas mieux. Merci de ce que dans ta bonté, tu nous appelles à faire partie de ton peuple. Que nous puissions voir plus de ta grâce contre toute attente, de la grâce que tu nous as montrée en Jésus-Christ et que nous cherchons aussi à chercher notre satisfaction en toi. Et même au travers de personnes comme nous, que tu puisses continuer à bâtir ton peuple. Et cela pour ta gloire. Amen. Amen.
Amen. Merci Keith. Quelle bénédiction que Dieu, malgré nous,